enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia, nous croyons que Jésus est ici, amen. Que son esprit est ici. Que Jésus est là. Alléluia. Bénissons Dieu pour sa présence. Je crois que nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu. Aucune créature, aucun homme aucune femme, aucun enfant n'est en dehors de l'amour de Dieu. Je crois à sa présence cet après-midi. C'est vrai que Jésus est parti dans la gloire, mais il a envoyé le même que lui-même, le Saint-Esprit. Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais vers le Père, mais vous ne serez pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra. » Et la parole de Dieu, quand elle nous parle du Saint-Esprit, elle nous parle d'un autre lui-même, comme lui-même. Et depuis 2000 ans sur la terre, l'espoir est né dans le cœur des hommes. Depuis 2000 ans, des millions d'hommes sous tous les cieux, tous les horizons, ont découvert la grâce, la puissance libératrice de Jésus, la guérison de leurs maladies, la consolation au milieu de leurs épreuves. Des millions sont morts en confessant Jésus-Christ et sont partis dans la gloire, non pas, mes amis, avec la crainte dans leur vie, mais avec une joie extraordinaire de rencontrer celui en qui ils avaient cru. Et cet après-midi, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. J'ai beaucoup apprécié le témoignage que nous avons entendu de l'œuvre du Seigneur dans des corps, dans des vies, dans le cœur de ce jeune. Et je crois que le même Dieu, le même Esprit est là cet après-midi. Si j'avais une courte pensée à vous donner, je vous dirais, prenez courage, Dieu vous aime. Dieu a quelque chose pour votre vie. Moi, je ne le savais pas il y a 22 ans. Je ne le savais pas dans l'impasse dans laquelle j'étais. Je ne le savais pas dans cette vie sans issue dans laquelle je me trouvais. Je ne savais pas qu'il y avait une porte invisible. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un de puissant qui pouvait délivrer ma vie de la fosse, de la dépression, de la drogue, de la maladie, de l'amertume, de la haine. Et puis cette porte s'est ouverte lorsque j'ai entendu parler de lui. Pendant quelques instants cet après-midi, j'aimerais vous parler de Jésus, vous parler de lui. Et le thème que nous avons retenu pour cet après-midi, ce thème nous parle de la souffrance. Cette souffrance qui est là dans le monde, cette souffrance que tu peux connaître. Nous parlons d'un monde aujourd'hui qui, en réalité, est un monde en flammes, un monde où les flammes de la souffrance, la difficulté, est là en train de brûler bien des vies, bien des cœurs. Je pourrais dire que la terre n'est plus que devenue qu'un fleuve de larmes, de détresse. Et nous pourrions nous poser cette question cet après-midi. Mais où est Dieu dans cette affaire? Nous pourrions nous laisser interpeller et de dire, mais s'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Job disait dans une de ses paroles de la Bible, il disait ceci, Dieu serait-il de l'épreuve du méchant? Dieu serait-il de l'homme? Ce roi d'Israël a connu des moments particuliers, particulièrement difficiles, et des hommes étaient autour de lui et lui disaient, « Mais où est ton Dieu ?» Et vous savez, cet après-midi, nous ne voudrions pas nous défiler devant la souffrance. L'abîme ne se défile pas devant le drame de l'humanité. La Bible ne se ferme pas devant peut-être le cri de douleur qu'il y a dans ton cœur, un cri de révolte. Au contraire, la Bible s'ouvre et je bénis Dieu de ce que nous pouvons avoir un nouveau regard sur la souffrance. Je crois que dans ce monde, il y a quelqu'un qui a réussi à creuser un fossé d'incrédulité entre Dieu et les hommes, et ce quelqu'un s'appelle le diable, notre ennemi. La parole de Dieu nous parle de lui, elle nous parle de ses œuvres, elle nous parle de son rôle dans la destruction de ce monde, dans la destruction des corps, dans la destruction des esprits, dans la destruction des foyers. La Bible est remplie, mes amis, d'exemples d'hommes et de femmes qui étaient dans les joues, dans les prisons de l'ennemi, et qui étaient dans des prisons de souffrance innommables, mais qui ont découvert, là au milieu de leurs ténèbres, la lumière de Dieu, et ils ont trouvé le salut dans la personne de Jésus-Christ. Le salut, la délivrance, la guérison, et nous avons entendu quelques exemples cet après-midi. Si Dieu est un être aimant, juste, pourquoi y a-t-il tant de méchanceté, tant de souffrance, de chagrin? On se pose la question dans le monde, mais d'où vient toute cette haine? On est scandalisé, on est dépit, on est dépourvu devant parfois des images de reportages quand on a vu ces massacres au Rwanda. On est complètement, mes amis, comme court-circuité de toute pensée quand on voit ces drames. J'ai appris il y a quelques jours qu'une mère de famille avait noyé ses deux fils. On se dit, mais est-ce possible? D'où vient toute cette haine? D'où vient tout ce malaise? D'où vient toute cette souffrance? Et il est vrai, mes amis, que devant un tel sommet de souffrance aujourd'hui, nous pourrions avoir dans notre cœur un ras-le-bol et de pouvoir dire, mais où est Dieu dans tout cela? Certains ont dit, si le mal existe, Dieu n'existe pas. Et je voudrais vous dire ce matin que il y a bien des années en arrière, c'était la philosophie de ma vie. La maladie était rentrée dans ma maison. L'alcoolisme avait entraîné mon père dans toutes sortes de chaînes de méchanceté. Il n'était plus un homme. Il avait perdu son identité. Nous avions peur de lui. Il était devenu, mes amis, un meurtrier avec sa langue. Parfois, il prenait un couteau et nous courait après pour nous tuer. Et nous nous demandions, mais où est Dieu dans tout cela? Et quand ma maman a conduit en terre une petite fille de 11 ans, eh bien, mes amis, j'ai vu ma mère pleurer, ma mère courir dans la maison, et elle disait, mais où est Dieu? Mais où est Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Et pendant des années, j'ai vécu avec cette pensée dans mon cœur, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes simplement de passage, des accidents sur la terre. Vivons, mangeons, buvons, réjouissons-nous. Il n'y a rien, ni Dieu, ni diable. Débrouillons-nous, que la loi du plus fort se manifeste. Réussissons. Et c'est ainsi que cette philosophie m'a conduit au désespoir, à la drogue, à la dépression. Oui, quelqu'un pourrait le dire cet après-midi, mais si Dieu existait, pourquoi tant de mal? D'autres, peut-être avec moins de virulence, peuvent dire parfois, oui, certainement, le monde ne s'est pas fait tout seul, mais si Dieu existe, il doit certainement être indifférent, certainement qu'il est aveugle, ou alors ses mains sont trop courtes pour agir, son cœur est trop dur pour intervenir, c'est un Dieu implacable, un Dieu implacide devant les difficultés, un Dieu lointain qui n'a que faire de la terre. Et puis d'autres ont une solution peut-être parfois plus radicale. Il dit ceci, eh bien si Dieu existe, il devrait tout simplement éliminer le mal. Et nous avons cette caricature de Dieu, d'un Dieu qui ressemblerait à un Père Noël, d'un Dieu, mes amis, qui ressemblerait à un magicien, un Dieu qui devrait être là surveillant les uns et les autres aux quatre coins de la terre, arrêtant l'accident, arrêtant le drame. changeant ceci, changeant cela. On voudrait voir un Dieu style pompier dans le monde. Mais est-ce que c'est là la véritable réalisation, la véritable vérité? Nous avons besoin d'être interpellés cet après-midi sur la vraie cause de la souffrance, parce qu'en ayant la vérité sur sa cause, nous aurons aussi le moyen d'en sortir par la grâce de Dieu et de connaître une issue à nos questions et une vie bénie dans sa grâce. Comment expliquez-vous, mes amis, le sens moral de l'homme? Parce que c'est vrai qu'il existe parfois dans des hommes, et je le voyais dans mon père, je voyais un homme parfois méchant, dur, implacable. Je voyais un homme qui n'avait ni foi, ni loi, ni amour, qui n'avait rien par moments, et par d'autres moments, je voyais des larmes couler sur son visage. Je le voyais nous réunir, alors que ma mère avait été frappée, il la prenait, il nous prenait, puis il nous disait, je vous promets, demain je ne buvrai plus, je ne recommencerai plus. Et puis il recommençait. Comment expliquer que dans ce monde, il y a quand même une manifestation de bonté, il y a quand même dans ce monde de l'amour, il y a quand même de la tendresse, il y a une certaine justice. Les hommes disent, ça c'est bien, ça c'est mal, on fait des procès, on a là une certaine connaissance. Il y a un être moral. Comment l'expliquer? Si Dieu n'existe pas, un homme a écrit ceci, je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi, et il sentait une lutte dans sa vie. Il, comme s'il y avait deux actions dans son existence, deux forces. Des gens disent ceci. Si Dieu existe, il devrait éliminer le mal. Il devrait l'éliminer. Mes amis, une grosse interrogation cet après-midi. Dans un foyer en Allemagne, il y a bien des années, un petit être est né. Et imaginez-vous que ce petit être, au bout d'un an, deux ans, 3 ans, 10 ans, soit décédé. On aurait été révolté, on aurait dit, mais où est Dieu dans cette affaire? Voilà un gosse qui s'en va dans la mort, il n'y a pas de Dieu. Et si ce petit gosse s'appelait Adolf Hitler? On aurait crié à l'injustice il y a 50 ans, 60 ans. Sur la mort d'un nouveau-né. Le diable a réussi, mes amis, à rendre Dieu responsable du mal. Le diable a réussi à nous tromper. Le diable a réussi à mettre dans ton cœur un mensonge dans lequel tu vis, que le mal vient de Dieu. Et pendant des années, j'ai levé mon poing vers le ciel et je disais, s'il y a un Dieu, t'es méchant. Et je ne savais pas, dans mon ignorance, que le diable m'avait mis un mensonge dans le cœur. Il m'avait mis une révolte dans l'âme. Et plus, mes amis, je levais le poing, plus je m'éloignais de la bénédiction de Dieu. Jusqu'au jour où, dans sa grâce et son amour, j'ai pu voir les bras ouverts de Dieu, les bras percés de Jésus-Christ, où j'ai pu voir son amour éclater sur une croix pour un pécheur, un pauvre type, un brigand, l'homme que j'étais. Je vous pose la question cet après-midi, si Dieu devait éliminer le mal, combien d'entre nous subsisterait-il? Combien d'entre nous subsisterait-il cet après-midi? Si Dieu devait ôter le mal, combien d'hommes seraient sur la planète? Aucun, mes amis, tu ne serais pas là. si Dieu avait jugé le mal, si Dieu t'avait jugé pour ce tout ce que tu as fait, tu ne serais pas ici. Si Dieu t'avait ôté la vie, le jugement serait venu pour toi et tu serais basculé dans une éternité loin de Dieu, que la Bible appelle un lieu de tourment, un lieu où les injustes, les impies vont, l'enfer. Mais la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est pas venu, mes amis, pour éliminer l'homme de la terre. Dieu n'est pas venu pour régler le compte de l'homme. Dieu sait que l'homme est perdu. Dieu sait que l'homme est incapable de faire le bien. Dieu sait que le péché est attaché à nous. Dieu sait que nous sommes aveugles. Dieu sait que nous sommes révoltés. Dieu sait de quelle nature nous sommes. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la plus belle nouvelle de l'Évangile, un collègue le disait tout à l'heure, c'est que Dieu est venu dans le monde chercher, sauver celui qui est perdu. Amen. Et cet après-midi, tu es perdu. Le mal est attaché à toi. Et malgré l'éducation, malgré les révolutions, malgré les idéologies, les technologies, la libéralisation des mœurs, les philosophies, les religions, malgré la culture, l'enseignement, le monde est le même. Ce n'est pas dans ces choses que nous pourrons trouver la délivrance. Regardez aujourd'hui des hommes de connaissance extraordinaires ont été capables d'inventer la bombe atomique. Des hommes sont capables aujourd'hui de faire des manipulations génétiques. Leur intelligence les amène à faire le mal. Non, ce n'est pas l'enseignement qui peut changer nos vies. Non, ce n'est pas la culture qui peut briser le joug du mal. Nous connaissons des hommes, mes amis, qui sont cultivés, des hommes qui ont des capacités extraordinaires, intellectuelles. Nous avons des hommes sur la terre, mais quand on découvre leur vie, quand le livre s'ouvre sur son existence, quand on va derrière le décor, on voit la pourriture, on voit la saleté, on voit le mal, et on est étonné. J'aimerais vous dire cet après-midi que ce que nous avons besoin dans nos vies, ce n'est pas lever le poing vers Dieu, mais c'est d'élever notre prière pour qu'il ait compassion de nous, pour que nous lui apportions notre misère. Il y a cet après-midi des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants. Cet après-midi, venez à Jésus, venez à lui, donnez-lui votre cœur. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a un gosse qui sera un assassin en puissance demain. Vous avez lu dans le journal cette gamine de 14 ans ? Parce que son père ne lui laissait pas vivre la vie qu'elle voulait vivre, rentrant en pleine nuit, elle prend le fusil, elle va tuer ses parents, parce qu'il avait eu l'audace de lui dire « Tu sors de trop !» Qui sommes-nous? Qui pouvons-nous dire demain « Je ne ferai pas cela, je ne ferai pas ceci ni cela » Un seul peut nous garantir la victoire, un seul peut briser le péché dans nos vies, un seul peut en briser son pouvoir, c'est Jésus de Nazareth. Deux gamines de 15 ans, dans les blocs à Vendeuvre à Nancy, ont agressé avant-hier une petite fille de 11 ans avec une seringue. Mes amis, elles l'ont touchée. On a pensé que la seringue pouvait être contaminée. Mes amis, qui sommes-nous? Qui es-tu? Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de son esprit dans ta vie. Tu as besoin de devenir une nouvelle créature. Tu as besoin de quitter la haine pour l'amour. Tu as besoin de quitter la violence pour la paix de Dieu. Tu as besoin, mon ami, de connaître le Sauveur qui t'aime. Tu as besoin de connaître Jésus de Nazareth. Oui, la Bible nous dit que l'origine du mal, c'est Satan. L'origine du mal sur la terre, c'est un être qui n'a aucune pitié. C'est un être qui se fiche de vos larmes. C'est un être qui se fiche de votre douleur. C'est un être qui n'écoutera jamais votre cri. Cet être, Jésus le révèle, et il dit, c'est le diable, c'est lui qui est venu pour voler, égorger, détruire, et il est à l'œuvre dans le monde. Et puis, mes amis, le mal, l'Écriture nous dit également que l'homme a sa part de responsabilité. Combien aujourd'hui nous pourrions peut-être maudire Dieu, lever le poing vers lui. Mais mes amis, combien aujourd'hui sont victimes d'un manque d'affection? Combien de gosses n'ont jamais connu les genoux d'un père ou d'une mère? Il y a des années à Thionville, nous avons vu une conversion bouleversante. Cette jeune femme, pendant les années de son enfance, a été une enfant martyre. Son père la frappait. Et toute petite, elle a été brûlée à la cigarette. Elle a reçu des coups. Elle a été en sang. Elle a été élevée dans cette ambiance. Elle s'est mariée. Elle a eu un premier enfant. Et mes amis, cet enfant, elle l'a frappé comme on la frappait. Elle répandait sa haine, sa fureur sur lui comme on l'avait fait sur elle. Et puis un jour, après avoir écouté l'évangile, elle était dans sa maison. Son fils avait fait une bêtise. Et comme à l'accoutumée, elle était en train de le taper. Mais à un moment, sa main s'est suspendue, comme arrêtée. Elle entendait les hurlements de ce gosse. Et puis elle est tombée à genoux. Et puis elle a osé faire ce que vous devriez faire, ce qu'un jour j'ai fait dans ma misère. Elle a crié, elle a dit, « Oh Dieu, change-moi !» Et la Bible nous montre, mes amis, que l'homme peut être un loup pour l'homme, comme cette mère était un loup pour son enfant et comme on l'avait été pour elle-même dans son enfance. Et ce jour-là, elle est devenue une nouvelle créature. Pourquoi accuser Dieu de ce que l'homme est responsable? Combien sont victimes de l'égoïsme? Combien sont victimes de l'alcoolisme? La Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Voudriez-vous venir avec nous dans les rues de Vannes, de Paris, de Lille, de Lyon, de n'importe quelle ville et vous arrêter sur la prostituée du coin? Et si vous connaissiez le parcours de sa vie, vous comprendriez que c'est une femme, peut-être un homme, qui a connu bien des tristes moments dans son existence. La plupart des filles qui sont sur le trottoir aujourd'hui sont des filles dont les pères ont abusé d'elles quand elles avaient quelques années. Combien sont victimes de l'alcoolisme, de la cupidité des parents? Combien victimes sont-ils? On a préféré le matérialisme à la famille. Et aujourd'hui, on a des bandes de gosses. On a une population, une jeunesse complètement déboussolée, qui n'ont jamais entendu leur père, leur mère leur dire franchement « Je t'aime ». Ils ont vu les parents aimer leur maison secondaire. Ils ont vu leurs parents travailler pour le bateau, le deuxième, le troisième. Elles ont vu leurs parents faire la course à l'argent. Et à la place de l'affection, on leur a donné beaucoup de cadeaux. Mais jamais on leur a dit qu'on les aimait. Combien sont victimes aujourd'hui du racisme? Non, mes amis, la parole de Dieu nous montre que le diable est à l'origine de la souffrance. Mais que les pères ont des responsabilités, les hommes ont des responsabilités. Serait-ce la faute de Dieu ce soir si dans cette région de Bretagne, un alcoolique venait écraser quelqu'un ou commettre un accident? On dirait, ah, s'il y avait un Dieu, moi je vous dirais cet après-midi, si seulement il n'y avait pas d'alcool. Je dirais cet après-midi, si seulement il n'y avait pas de bistrot. Si seulement il n'y avait pas mes amis, là, toutes ces choses pour détruire. Et la Bible nous dit que le péché qui est entré dans le monde avec Satan, eh bien, a même bouleversé cette terre. Même, mes amis, cette terre que nous voyons connaît des cataclysmes, des raz-de-marée, des tremblements de terre. Même la terre est marquée par le joug du mal. Mais bientôt vient le jour où il refera la terre, alléluia. Bientôt vient le jour où il n'y aura plus ni deuil ni larmes. Bientôt vient le jour où les gosses n'apprendront plus la guerre. Bientôt vient le jour, mes amis, où Jésus de Nazareth va revenir et il va mettre sur la terre la paix pendant 1000 ans. La Bible nous parle de ces choses et puis la Bible nous parle de l'après 1000 ans. La Bible nous parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Mais en attendant, mes amis, comment trouver un chemin? Comment trouver une issue? Comment sortir de la souffrance? La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle de Jésus de Nazareth. La Bible nous parle de celui qui existait en forme de Dieu, a pris un corps semblable au nôtre et est entré dans le monde. La Bible nous parle de celui qui allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien et guérissant les malades, délivrant les possédés. Il y a quelqu'un qui est venu dans le monde, c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit que Jésus est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Jamais vous ne verrez ailleurs Jésus qu'au milieu de la souffrance. Il s'est arrêté sur le lépreux, il s'est arrêté, mes amis, vers la veuve de Naïm qui avait perdu son fils. Il s'est arrêté vers le paralytique, vers le sourd. Il s'est arrêté comme le bon samaritain sur le chemin des hommes blessés. Jésus est venu dans le monde, c'est pour nous sortir, mes amis, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos péchés, et de nous ramener vers le Père dans la communion avec lui par le moyen de la foi. Oh, béni soit celui qui est venu. Le monde peut changer pour toi. Ta souffrance peut devenir, mon ami, un sujet de louange et d'adoration. Oh, mon main percée. Et ce gosse, au milieu de sa souffrance, ne pleurait plus à cause de sa souffrance, mais il pleurait parce qu'il avait vu le chemin qui conduit à la liberté. Ce chemin, c'est Jésus. Dieu t'a aimé, mon ami. Dieu n'est pas ton ennemi. Il est l'ennemi du péché, du mal, de la maladie. Dieu est l'ennemi de l'alcool. Il est l'ennemi de la drogue. Dieu est l'ennemi de ce qui nous tue. Dieu est notre ami, que Dieu soit béni. Et il est venu dans le monde comme un homme de douleur. Tu ne pourras jamais lire une page de l'Évangile sans voir la douleur du Fils de Dieu, sans voir la compassion de Jésus. La Bible nous parle des larmes de Jésus. La Bible nous parle des souffrances de Jésus. La Bible nous parle des compassions de Jésus. La Bible nous parle de celui qui a connu tout ce que nous avons connu. Il a été trahi. Il y a peut-être quelqu'un cet après-midi qui a été trahi. Trahi par un époux sans cœur. Trahi peut-être par une épouse frivole. Il y a peut-être quelqu'un cet après-midi qui dit, s'il y avait un Dieu, mon foyer ne serait pas cassé. J'aimerais te dire que Jésus a été trahi. Il sait ce que tu souffres. Il sait ce que tu endures. Il connaît tes larmes. Jésus a pleuré à la trahison de son ami Judas. Il a été trahi, vendu pour 30 pièces d'argent. Mon ami, Jésus connaît la souffrance. Il a été abandonné de tous. La Bible nous dit qu'il a été frappé, humilié. La Bible nous dit qu'il a connu le mépris. Il a connu le rejet. On l'a chassé. On n'a pas voulu de lui. La Bible nous parle d'un sauveur qui s'est fait homme. Mon Dieu à moi n'a rien à voir avec un Bouddha insensible. Mon Dieu à moi n'a rien à voir, mes amis, avec une espèce de statue quelconque. Le Christ de Dieu est venu en chair, homme de douleur, connaître la douleur. Il est venu mourir sur la croix. Il a été percé. Il a été cloué. Il a été couronné d'épines. Il a porté les souffrances du monde entier. Il a porté nos iniquités. L'abîme nous parle de la croix, et la croix nous oblige à bouleverser notre jugement. La Bible nous montre qu'à la croix du calvaire, il a été abandonné. Il le dira lui-même, portant le péché. Il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Il a connu la pire des solitudes. Il a connu le sommet de l'épreuve. Et au milieu de tes pourquoi, entends le pourquoi de Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as peut-être dit cela il y a quelques semaines. Pourquoi? De la croix, je l'entends. Il a été abandonné de Dieu pour qu'aucun homme ne soit abandonné. Il a été abandonné du Père parce qu'il portait nos péchés. Le regard de Dieu s'est détourné pour que ton regard se fixe sur lui et que tu dises, il n'y a personne qui m'aime comme Jésus. Et au lieu de refuser son salut, tu devrais courir et venir à lui afin qu'il te bénisse, qu'il t'apaise, qu'il te délivre, qu'il te donne une vraie raison d'être, une vraie raison d'exister. Jésus a posé la question la plus fondamentale, pourquoi? Pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés. À travers Golgotha, il y a 22 ans, je n'ai plus vu ma souffrance comme avant. Je n'ai plus vu mon Père comme je l'avais toujours vu. À travers Golgotha, j'ai compris que l'alcoolique qui était mon Père était une créature dans les chaînes du diable. J'ai compris qu'il était là dans les liens du péché. Et je n'ai pas continué à le haïr, mais j'ai commencé à l'aimer. Et puis j'ai vu mon papa venir à Jésus-Christ et connaître la délivrance. Et 6 mois plus tard, il est parti dans le ciel. Il est parti sauvé par grâce. Golgotha change notre regard. Cet après-midi, je vois la terre sous le joug du diable. Et depuis des années, j'ai décidé de servir la cause de Jésus-Christ. Oui, à travers Golgotha, Dieu nous a aimés. Dieu nous donne une issue. Dieu nous donne un secours. Dieu nous aide. Il y a des années, un homme a écrit un livre qui s'appelle « Le long silence ». Et il voulait parler, non pas du silence de Dieu, mais il voulait parler d'une conclusion que des hommes ont été amenés à prendre. Ce livre, pour le résumer, nous montre le jugement dernier, nous montre une immense salle, une immense place avec des milliers de gens. Ils sont par groupe, ils causent, ils vont, ils viennent. Et d'un lieu vient une lumière puissante. Et ces hommes savent qu'ils sont dans un lieu d'attente. Et on murmure que le jugement va bientôt venir. Et puis d'un seul coup, dans ce milieu, une femme s'écrie, mais de quel droit? Quel droit a-t-il pour nous juger? Elle a retroussé sa manche et elle a montré aux autres les numéros du camp de concentration dans laquelle elle avait vécu et où toute sa famille était morte. Un autre était là, en fauteuil roulant, il disait, « Mais de quel droit peut-il nous juger ? Qu'a-t-il connu pour le faire ?» Et puis il y avait un homme, la peau était noire, il a ôté sa chemise, il a montré son dos, portait les marques de coups de fouet. Le simple fait, disait-il, on m'a fouetté parce que ma peau était noire. De quel droit vais-je être jugé ? Et puis on entendait ainsi une multitude de gens. Et puis, dans ce silence pesant, quelqu'un est apparu. Ce quelqu'un, c'était Jésus. Et Jésus a marché au milieu d'eux. Et puis on a vu quelques scènes de sa vie. Des hommes ont vu Jésus être frappé pour le simple fait qu'il était juif et qu'il annonçait la voix de Dieu. On l'a rejeté, on lui a craché au visage, on l'a mis dans la prison, les Romains l'ont enfermé, puis on a vu toutes les scènes de Jésus. Et le silence s'est établi, des hommes et des femmes avaient dit, « De quel droit peut-il nous juger ?» Et on avait conclu, il aurait le droit de nous juger s'il avait souffert comme nous. J'aimerais vous dire cet après-midi, le Christ de la Bible, le Christ des Évangiles, a souffert comme toi. Tout ce que tu as connu, il l'a connu. Et il ne vient pas pour juger, il vient pour te sauver. Il vient pour te pardonner, il vient pour te guérir. Peut-être cet après-midi, dans ta souffrance, t'as pensé au suicide. T'as pensé te mettre une balle dans la tête. Tu as pensé aller te pendre. Tu as pensé en finir. Tu dis, personne ne comprend, personne ne sait, quelle raison ai-je de vivre? Pourquoi continuerai-je à vivre? Je n'ai plus rien, plus personne. J'aimerais te dire cet après-midi, Jésus t'aime. Jésus voudrait te sauver. Jésus voudrait donner un espoir à ta vie. Jésus voudrait pardonner tes péchés, guérir tes blessures. Jésus voudrait t'arracher des griffes du diable qui t'entraînent vers la mort pour t'ouvrir le chemin du paradis. Il voudrait t'amener à une relation avec Dieu. Il voudrait que tu reçoives dans ton cœur son pardon, sa paix, sa joie. Il y a 22 ans, dans ma souffrance, un samedi matin, j'ai pensé à la mort. J'ai pensé mourir. Et le samedi après-midi, j'ai entendu le message de l'amour de Dieu. Il a changé ma vie. Il m'a changé d'orientation. Il m'a changé de route. Aujourd'hui, après quelques années, en montant de drogué, je disais, qu'importe si je vis jusqu'à 30 ans, 40 ans, ça sera suffisant. Maintenant, j'ai passé un certain âge. Mais j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de dire au monde, j'ai envie de vous dire cet après-midi que Jésus peut changer le mal en bien. Jésus peut vous prendre où vous êtes et transformer votre souffrance, vous guérir, vous apaiser, vous consoler, vous donner une vraie raison d'être, car Jésus vous aime. Ne voyez pas en lui quelqu'un d'indifférent. Tu es précieux pour lui. Tu es précieux pour lui. Le diable veut faire de toi un souffrant. Mais Jésus veut faire de toi un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille apaisée. On va prier Dieu ensemble. Alléluia.
Thank you.
enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.